Vacarme.
Sur cette station-là, il y a à peu près 300 substances qui sont analysées. Et depuis septembre 2025, date à laquelle le service de l'environnement a demandé aux industriels de stopper tout rejet, on ne retrouve plus de triazole dans le Rhône.
Vacarme.
Pollution de l'eau, une peur bleue.
Laurence Di Félix, Raphaël Bouchet.
De 4 triazole. Derrière cette formule chimique qui ressemble à une petite comptine se cache un micropolluant persistant utilisé par l'industrie agrochimique pour la fabrication de fongicides dans l'agriculture et dans la pharmaceutique. Stupeur, en septembre 2025, les mesures de contrôle des réseaux de distribution d'eau repèrent une concentration 7 fois supérieure aux normes légales émises par la Confédération, c'est-à-dire 0,1 microgramme par litre. Les eaux du Rhône et du Léman sont concernées. L'entreprise Syngenta, à Montais, est identifiée comme la principale responsable de cette pollution. Elle a cessé depuis ses rejets dans le Rhône, mais il faudra au moins une vingtaine d'années pour que ces traces disparaissent des eaux du Léman. En attendant, les quelques 900 000 personnes qui consomment tous les jours l'eau du Léman peuvent continuer à la boire. Cette concentration de triazole n'est pas, selon plusieurs études, nocive pour la santé. Mais on connaît mal l'impact environnemental de cette substance qui vient s'ajouter à la longue liste de micropolluants déjà présents dans l'eau qu'on boit et dans l'air qu'on respire. Les distributeurs d'eau doivent se mettre aux normes. Or, on ne sait pas, à l'heure actuelle, éliminer le 1,2,4 triazole de l'eau. Comment les autorités comptent-elles endiguer le problème? Qui va payer les dizaines de millions nécessaires à l'assainissement des eaux? Le service valaisan de l'environnement a lancé une procédure administrative contre Syngenta pour déterminer les responsabilités. Car à l'arrivée, le prix de l'eau risque bien de grimper. Nous sommes à Hollon, dans le canton de Vaud. Ce soir-là, l'association de protection de l'environnement Chablaire se réunit pour discuter de ses actions à venir. La séance est présidée par Carole Morizot, par ailleurs députée verte au Grand Conseil valaisan.
Alors bonjour, bienvenue à cette séance. Je vais directement au point 2 de l'ordre du jour. Est-ce que vous acceptez l'ordre du jour et le PV du 30 septembre pour validation?
Oui.
Oui.
C'est tout bon. Alors merci Régis pour la rédaction de ce PV, toujours parfaitement bien tenu.
Remontée à la source, reportage Quentin Bollène, réalisation Jonathan Aslobacher.
Alors je passe au point 3. De l'ordre du jour, ce point il concerne la pollution des eaux. Il y a pas mal de documents que je vous ai transmis au sujet de ces pollutions. On peut parler du triazole. Et je vous ai envoyé les réponses qu'on a reçues suite à l'interpellation au niveau du Grand Conseil sur le triazole. Enfin, moi, j'ai quand même 2-3 choses qui m'interpellent quand même un petit peu. Notamment les quantités de substances qui sont surveillées en continu à la porte du C. Il y a quand même 300 substances qui doivent être surveillées. Ces polluants vont quand même dans le Rhône et ils vont dans le lac Léman, qui est quand même un réservoir d'eau potable. Et puis, les rejets des steppes, comment elles sont analysées? Et la loi prévoit surtout que c'est l'entreprise elle-même qui doit...
Qui a la steppe.
Voilà, qui possède la STEP, qui doit faire ses analyses et annoncer les rejets des STEP, voilà, ses autocontrôles. Et ça, je trouve quand même qu'il y a... C'est quand même assez délicat. Alors moi, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer par rapport à ça.
Moi, par rapport au... On revient sur le triazole au départ. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que cette pollution a été annoncée. Mm-hmm. Apparemment, ça fait déjà des années qu'il y avait cette pollution. Et en quelques jours ou quelques semaines, Syngenta a trouvé des solutions pour éviter que ce produit se déverse dans le Rhône. Donc, ils auraient déjà pu y penser avant. C'est un peu surprenant, ça.
C'est un petit peu leur fonctionnement. Tant que ce n'est pas mis comme quoi ce produit est interdit ou doit être retenu, en quelque sorte, ils respectent la loi, à quelque part. Et c'est parce que le triazole a été mis dernièrement comme substance...
Non, c'est polluant. Un vieux truc.
Mais il n'était pas interdit au niveau fédéral.
Non.
Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ne se sont pas préoccupés par rapport à cette pollution.
Mais dans l'ancien siècle, les fongicides, on disait non, ils sont bons. Et c'est surtout des insecticides et herbicides qui sont méchants. Alors, on a un peu fermé les yeux, j'ai l'impression.
Je pense qu'on pourrait faire une intervention au niveau du avec Chablais, de poser des questions aux scènes par rapport à ça. Oui. Parce que poser des questions à Syngenta, ça ne sert à rien.
Non, nous répondent pas. Rien.
Quels sont les polluants qui sont émis dans l'air suite à l'incinération des eaux chargées en triazole? Parce qu'avec ça, ils ont brûlé cette substance. Qu'est-ce qui ressort? On ne sait pas. Ça ne va plus dans l'eau.
Aucun danger pour la qualité de l'air.
Ça ne présente jamais de danger. Mais peut-être qu'on peut demander qu'est-ce qui ressort et quelles ont été les analyses. Est-ce qu'ils ont fait des analyses de la, des
c'est
rejets?
Surtout la contrôle, comme il y a un espèce d'autocontrôle de la STEP. Donc, il faut un contrôle officiel.
Moi, je pense qu'il faut faire une intervention politique, puis demander que les contrôles inopinés soient faits par le canton. Et qu'on ne peut pas que compter sur les entreprises elles-mêmes. On part toujours dans le principe qu'on fait confiance aux entreprises. Oui, ben, une grande partie, la majorité des entreprises, elles jouent le jeu correctement, mais il y en a certaines. C'est toujours à la limite. Et on a vu avec Tamol, ils rejetaient dans le Rhône des substances illégalement. Et puis, gentiment, maintenant, il faut qu'on accepte, au niveau politique, d'engager plus de personnes pour faire ce genre de contrôle. Donc, voilà. On a demandé la liste des pesticides qui sont produits sur le site de Syngenta. On ne demande pas comment ils ont été fabriqués, on demande juste le nom des produits qui sont faits sur le site. Et bien, le service de l'environnement a répondu comme quoi ils ont demandé à Syngenta et Syngenta a refusé. Donc, on doit demander directement à Syngenta si on veut avoir la liste, qu'ils nous donneront jamais. Donc, au bout d'un moment, moi, je trouve que peut-être qu'on pourrait faire appel aussi au préposé à la protection des données. Si chaque fois on nous répond qu'on ne peut pas nous donner les réponses qu'on demande, elle est où la transparence dans tout ça? Encore une fois, je ne vais pas demander le processus. Je ne demande pas le processus, parce que je comprends que c'est un processus industriel qui est secret. À cause de la concurrence, ils ne peuvent pas nous donner, c'est logique. Mais juste le nom. Petite anecdote, j'étais intervenue dans avec des collègues ici à Colombey, donc pour dire justement que il fallait que l'eau elle soit propre. Il s'agissait de la STEP de Colombey-Murat pour mettre des filtres micropolluants. À part nous, personne n'était pour. Et puis j'ai évoqué, j'ai dit, mais il y a quand même à peu près 1 million de personnes qui boivent quotidiennement l'eau du lac. On s'en fout. Voilà la réponse que j'ai eue. C'est pas nous, on s'en fout. Moi, je trouve ça choquant.
Oui, c'est choquant.
Je dis, mais c'est des abrutis, c'est ces gens-là. Je m'excuse de parler comme ça. C'est peut-être violent de dire comme ça. Mais on a tous une part de responsabilité
absolument,
par rapport à ça.
Absolument.
Et ça, pas, ça a été refusé. Non, c'est des fois frustrant. Et je ne sais pas si vous avez encore des choses.
Moi, j'ai plein de questions. Vous parlez beaucoup du service de l'environnement du canton du Valais. Lui, quand même, il se veut rassurant dans toutes les réponses qu'il vous donne en disant que tous ces doses sont inférieures au seuil de dangerosité. Ça ne vous satisfait pas, ces réponses?
Non, parce qu'il y a l'effet cocktail. On a plein de substances. Donc tout ça, on n'a aucun recul.
Je compare toujours l'effet cocktail à ce qui se passe en pharmacie, en fait, avec les médicaments. On ne peut pas prendre tout et n'importe quoi ensemble. Après, il y a des effets néfastes, alors que tous les produits pris indépendamment, séparément, auraient un effet magnifique, mais ensemble, c'est l'horreur. Puis, c'est la même chose avec tous ces produits chimiques.
Qu'est-ce que vous, en tant qu'association, vous pouvez faire contre ça? Quel levier d'action vous avez?
Informer, ça c'est notre travail. Contacter les services, demander des renseignements supplémentaires. C'est vraiment essayer le plus possible d'impliquer la population, de les informer. Et puis aussi, on a des contacts avec des entreprises. Pour citer par exemple, on a des contacts réguliers avec la Satome. Mais c'est constructif. Voilà. Et ça, je pense que ça peut faire avancer les choses. Avec Tamol, on a eu très peu de contacts. Avec le site chimique, une fois. Voilà, donc c'est compliqué parce qu'il y a des aspects financiers qui sont très importants dedans. On ne peut pas mettre dans la balance la santé publique et l'emploi. Je pense que c'est pas une balance qui est correcte. L'emploi, il est nécessaire, il est important, mais on ne peut pas au détriment de la santé publique. Donc on doit quand même trouver des chemins qui puissent quand même amener à ce que la santé publique soit respectée.
Alors, on se trouve ici à Eviona, sur le site chimique de Siegfried, qui produit des principes actifs pharmaceutiques. Et puis là, on est localisé en fait vers la steppe industrielle.
Christine Genalet-Lebas, vous êtes la chef du service de l'environnement du canton du Valais. Pourquoi vous m'avez emmenée ici particulièrement ?
Bah aujourd'hui, l'idée, c'était de vous montrer comment fonctionne une steppe industrielle, mais surtout, c'est la steppe en Valais qui, aujourd'hui, traite les micropolluants ici de ces eaux.
Pas toutes les steppes sont équipées de ces filtres à micropolluants ?
Non, aujourd'hui, en Valais, c'est la première steppe qui est équipée de ce traitement micropolluant, mais on va avoir, ces prochaines années, plusieurs steppes qui vont être équipées.
Juste en quelques mots, Mehdi, cette steppe, elle date de quand et comment elle fonctionne exactement ?
Alors la steppe, elle a été construite fin des années 80, hein, mise en service en 89. Donc on fabrique des principes actifs pharmaceutiques à destination de l'industrie pharmaceutique. Et donc cette steppe, elle est là pour traiter ces eaux résiduaires avant de les rejeter dans le Rhône.
Est-ce qu'on irait à la première étape, l'endroit où vous recevez l'eau ? Vous me montrez ça ? Qu'est-ce qu'on voit là ?
Donc ici, on est sur le bassin tampon. C'est le bassin où toutes les eaux résiduaires des usines sont collectées au niveau de l'entrée de la steppe. Donc elle est issue principalement de nos procédés de fabrication, donc c'est surtout des eaux de lavage et aussi des eaux résiduaires, parce que dans la synthèse on va utiliser aussi de l'eau pour pouvoir faire de la synthèse de principes actifs.
Il faut juste aussi préciser qu'au niveau de l'usine même, il y a aussi des mesures qui sont prises à la source pour éviter qu'il y ait trop de flux polluants qui arrivent ici. Donc oui, au final, c'est pollué, mais le but d'une steppe, c'est de dégrader cette pollution. Donc voilà, ici, on a la particularité, c'est que c'est une steppe industrielle, mais elle fonctionne comme une steppe domestique. Dans une steppe domestique, il y aura aussi des micropolluants qui sont rejetés par les personnes, mais c'est plutôt des rejets au niveau de la consommation de médicaments, d'antibiotiques ou autres crèmes qu'on se met sur le corps. Par contre, ici, c'est vraiment en lien avec la production même.
Christine Genalet-Lebas, vous voulez rajouter quelque chose ?
Il y a une mesure en deux temps, une surveillance en deux temps. Donc d'une part, il y a ce qui est fixé dans ces autorisations. Hein. Donc il y a une obligation finalement de surveillance de l'exploitant de la steppe. Hein. Donc en fonction des substances qui sont produites. Hein. Puis il y a aussi cette obligation de transmettre ou d'informer le canton des substances qu'on retrouve sur le site, qui sont produites d'une part, mais aussi qui sont utilisées comme matière première.
D'accord, donc ce sont les entreprises qui s'auto-contrôlent et qui vous donnent les informations.
Mais après, évidemment, il y a aussi un contrôle qui s'effectue du canton. Donc nous, en fait, on reçoit hein, ces résultats qui sont contrôlés, resurveillés de notre côté. Et puis après, nous, on fait aussi des mesures, notamment à la porte du C où on va se rendre plus tard.
Le mieux le traitement. Donc ici on est sur l'étape de séparation des boues où on va avoir d'un côté les boues qui vont être séparées par rapport à l'eau traitée, donc on voit ici qui s'écoule dans la rigole, et c'est cette eau là qui va aller sur la station de traitement des micropolluants avant d'être rejetée dans le Rhône. Donc déjà visuellement on a déjà un indicateur de qualité de l'eau qui va être rejetée après ce traitement, en plus des analyses qui sont faites par le laboratoire pour garantir que l'eau ici, elle est assainie. Donc ici, on est devant l'installation de traitement des micropolluants. On voit ici trois silos qui contiennent chacun 8 tonnes de charbon actif. Et en fait, les charbons actifs, ils ont un rôle d'éponge. Il y a des cavités dans les charbons en fait, qui vont pouvoir retenir ces composés par effet d'adhésion physique.
Finalement, grâce à ces filtres à micropolluants, est-ce que le triazol, par exemple, un 2,4-triazol, il pourrait être filtré grâce à ces filtres ?
Malheureusement, le triazol est difficilement traitable sur ces filtres à charbon actif parce que c'est une substance qui est polaire. Du coup, on n'arrive pas à les traiter facilement avec ces traitements. Et c'est ce qui se confirme actuellement, notamment sur les essais qui sont en train d'être effectués à la source au niveau de Simo et Syngenta.
La steppe du Simo sur le site chimique de Montaigne où le 1,2,4-triazol a été déversé, elle contient, elle, des filtres à micropolluants ?
Alors actuellement, elle n'a pas encore de filtre à micropolluants, mais par contre, elle a un projet qui s'appelle Futurostep, hein, qui est en cours de développement. Et puis dans ce projet, hein, le traitement aux micropolluants est intégré.
qu'on voit, ces cuves de filtre à micropolluants, ça coûte combien en gros des cuves telles que celle-là?
Alors il y a eu un investissement initial qui a été fait pour faire cette installation-là, qui se chiffre à plusieurs centaines de milliers de francs. Donc en termes de coût d'exploitation, on parle sur chaque cuve à peu près 50 000 francs. La durée d'une cuve, c'est à peu près 3-4 mois.
Christine, Jeannelle Lobin, on est venu se réfugier au chaud, hein, parce qu'il fait très froid dehors pour un peu cette petite partie interview. Voilà, on va parler triazole, évidemment, hein, parce que c'est un peu l'actualité du moment. Expliquez-nous juste en deux mots, qu'est-ce que c'est ce 1, 2, 4 triazole et comment expliquer qu'il est utilisé par l'industrie?
Ben aujourd'hui, c'est une matière première, hein, pour l'industrie, pour produire en fait des produits phytosanitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette substance, hein, est utilisée par l'industrie depuis les années 90. Et c'était une substance qui, jusqu'à présent, en fait, n'avait pas de cadre, je dirais, normatif. Donc, il n'y avait pas de valeur légale fixée. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que cette substance a été rajoutée sur une liste, hein, que les chimistes cantonaux utilisent, hein, de substances pertinente. Et du moment qu'elle a été classée comme pertinente, elle avait une valeur légale, donc un 0,1 microgramme par litre qu'on a le droit de retrouver dans l'eau potable. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait c'est une substance donc, qui a été utilisée, qui était annoncée, hein. On avait connaissance finalement que l'industrie utilisait cette substance. Et puis quand on n'a pas de valeur légale dans les autorisations de déversement, en fait il y a plusieurs critères, hein, qu'on fixe. D'une part, bah, c'est l'état de la technique. Quel est l'état de la technique? Qu'est-ce qu'on arrive à traiter finalement pour rabattre cette substance à la steppe? Après il y a l'écotoxicologie qui est importante et puis la toxicologie humaine. Puis ça nous permet de dire quelle est la valeur en fait critique quand on déverse cette substance dans les eaux. Donc les valeurs, l'écotoxicologie puis la toxicologie humaine étaient beaucoup plus élevées. Et puis là, on a un abaissement sur une valeur de 0,1 microgramme par litre dans l'eau potable, qui est finalement une valeur aussi de sécurité, hein, par rapport au potentiel cocktail qu'on pourrait retrouver dans les eaux potables. Ça explique pourquoi, en fait, finalement, on n'avait pas cette substance dans le radar comme potentiellement pertinente. Ça explique aussi, finalement, peut-être des valeurs de rejet qui étaient un peu plus élevées que ces 0,1 microgramme par litre.
Quelle a été la réaction du service de l'environnement lorsque vous avez appris ça?
Les premières réactions, ça a été de faire un contrôle. On savait qu'il y avait une entreprise qui avait cette substance comme matière première, mais ça a aussi été d'identifier, est-ce qu'on a une autre source? Les résultats ont confirmé finalement ce qu'on pensait, hein, que c'est vraiment la source principale d'apport de triazole se faisait sur le site chimique de Montaigne.
Par l'entreprise Syngenta en particulier?
C'est elle, hein, qui utilise cette substance, hein, comme matière première pour la production de ces phytosanitaires. En revanche, hein, l'entreprise Syngenta, après, déverse ses eaux à l'entreprise Simo qui elle gère la steppe.
Depuis, quelles mesures ont été mises en place, notamment par rapport au site chimique de Montaigne et à Syngenta en particulier?
Il y a une procédure administrative, hein, qui a été ouverte du côté du service de l'environnement. On a demandé de réduire au maximum ou de stopper les apports, en fait. Et puis, c'est ce qui a été fait, hein, immédiatement par le site. Ils n'ont pas arrêté de produire, hein, les substances. En revanche, les autres process, plutôt que de les envoyer à la steppe, aujourd'hui, elles sont brûlées. C'est une solution à court terme, hein, car faut s'imaginer, hein, de brûler de l'eau en termes environnementaux, le bilan, il n'est pas très bon non plus, puis en termes de coûts aussi. Donc, évidemment que les entreprises, hein, sont à la recherche de solutions qui permettent de traiter ça de manière définitive, enfin, de traiter ça à la source.
La pollution du lac, en l'occurrence bon, du Rhône et après du lac par les industries valaisannes, est un peu une histoire qui se répète, hein. On se souvient du mercure, du phosphore, maintenant c'est le triazole. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais à stopper ces pollutions. Comment vous vous situez par rapport à ça, vous, le service de l'environnement du canton du Valais?
Oui, effectivement, je crois que c'est vraiment pour nous un enjeu de taille, hein, comme bassin versant principal du Léman. Puis je crois qu'on en a vraiment conscience au sein du canton. Donc, on vient de loin aussi, hein, faut le voir, hein, les steppes, ça fait pas des centaines d'années qu'on a des steppes qui sont capables de traiter. Donc vraiment maintenant, avec cette évolution, hein, au niveau du traitement, donc technologique, mais aussi au niveau analytique, d'être de plus en plus pointu pour éviter de déverser finalement des substances dans le Léman. Mais on l'a vu, hein, maintenant on a l'exemple du triazole, mais si on prend les PFAS, qui est plutôt un thème au niveau mondial, malheureusement, on a souvent un train de retard et puis, c'est en essayant d'agir à la source qu'on aimerait éviter cela. L'idéal, ben, ce ne serait pas de les avoir, mais en même temps, c'est une question un peu philosophique, je dirais presque même, parce que finalement, c'est notre société hein, qui veut consommer, puis pour qu'on puisse consommer, ben, y a besoin, entre guillemets, de chimie ou de pharma. On a un service de l'environnement quand même qui est très reconnu, aussi très compétent, et puis ça fait des années hein, qu'on travaille avec les industries, et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas un problème, j'ai pas de pression, hein, je dirais aussi au niveau de l'économie, pour que je puisse faire mon travail. Mais je dois aussi dire qu'évidemment, on aurait besoin de plus de moyens pour faire notre travail. Hein. Aujourd'hui, c'est clair, c'est un point, on l'a vu, hein, ça a été débattu au Parlement. Ça fait des années qu'on demande aussi des moyens pour renforcer les contrôles. Et puis, on voit que c'est un sujet qui est pas toujours facile. Hein. Et puis, par contre, pour nous, au service, c'est évidemment une priorité, hein. Ces rejets industriels, parce que c'est là aussi qu'on identifie le plus grand risque.
Bonjour.
Bonjour.
Quentin Bollone.
Vivien Grameau. Je suis le chef de la section protection des eaux au service de l'environnement du canton du Valais.
Et là, on se trouve où ?
Alors, on se trouve à la station de l'Office fédéral de l'environnement, la station de la Porte du Sey. Et puis, on collabore étroitement avec eux pour surveiller la qualité des eaux du Rhône. Alors, je vous ouvre. On entend le bruit de l'eau. C'est le prélèvement finalement qui est fait au niveau du Rhône. Et puis dans cette installation se fait les mesures des paramètres physico-chimiques et puis les prélèvements des différents échantillons nécessaires pour le suivi de la qualité. Voilà le frigo. Dedans on retrouve 5 bouteilles qui mesurent des paramètres différents. Et puis régulièrement un opérateur vient sur place pour faire les envois aux différents labos et permettre à la station de fonctionner en continu.
Donc voilà, on est ressorti de cette station. Donc c'est vraiment une sorte de petit bâtiment blanc. On pourrait presque le confondre avec des toilettes publiques, en fait.
Oui, alors ces stations ont été mises en place par l'Office fédéral à partir des années 70 pour suivre toute une série de cours d'eau sur le territoire suisse. Sur cette station-là, il y a à peu près 300 substances qui sont analysés. Là-dedans, on a des produits phytosanitaires, on a des résidus pharmaceutiques, on a les produits de dégradation de ces différentes substances. Cette liste évolue selon les rejets des industries, les substances qui sont rejetées au niveau des steppes, parce qu'effectivement, les capacités d'analyse et puis l'état de la technique, ce qu'on produit, change régulièrement, à intervalles réguliers.
Et justement, cette liste elle a été actualisée avec le 1-2-4 triazole récemment. Donc c'est là que vous avez pu faire aussi ces analyses pour vous assurer en fait, de la provenance, notamment de la source, mais aussi assurer que ça a stoppé. Hein.
Oui, et depuis septembre 2025, date à laquelle le service de l'environnement a demandé aux industriels de stopper tout rejet, on ne retrouve plus de triazole dans le Rhône.
Parlez-moi de l'évolution justement de ces rejets, de ces substances que vous analysez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ?
Au fil des années, il y a eu un abaissement continu des rejets dans le Rhône par la mise en œuvre d'une stratégie micropolluant à l'échelle cantonale qui est en place depuis les années 2010. Et cette stratégie a quand même permis un abaissement très important de facteur 100 voire 1000 des substances rejetées dans le Rhône, tout en sachant que les prochaines étapes maintenant, c'est d'installer des systèmes de traitement micropolluant sur une grande partie des stations d'épuration industrielle ou communale du canton.
C'est ça l'enjeu pour le futur ? C'est finalement d'essayer d'avoir une eau qui est complètement propre, nettoyée de tous ces micropolluants de l'industrie notamment ?
Alors c'est un enjeu, c'est un objectif central effectivement, tout en sachant que l'industrie évolue continuellement, les substances produites et rejetées peuvent aussi évoluer rapidement. Il faut trouver l'équilibre finalement entre ce qu'on va analyser, ce qu'on peut en déduire, et puis ce qu'on va imposer ensuite aux industries pour éviter de polluer l'eau.
Vacarme.
Le but ultime, ce serait de pouvoir traiter l'ensemble des micropolluants et de se dire que l'eau du Rhône ne contient plus rien. À court terme, à moyen terme, c'est un objectif qui est difficilement atteignable.
058 134 134 0 pour réagir à ce reportage de Quentin Bollen et nous dire ce que vous inspire cette affaire de pollution de l'eau par l'industrie agrochimique. La présence de micropolluants dans l'eau potable vous inquiète-t-elle? Buvez-vous encore l'eau du robinet? Dites-le nous au 058 134 134 0. Tout de suite, dans le deuxième épisode, la parole est aux autorités lausannoises, partie prenante de la procédure administrative contre Syngenta.
Aujourd'hui, on doit dire que nous sommes étonnés et fâchés, puisque Syngenta et Simo ont souhaité nous exclure de la procédure administrative et nous attendons une décision du Conseil d'État valaisan pour le maintien de notre qualité de partie prenante pour que nous ayons accès aux informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et est-on sûr qu'aujourd'hui il n'y a plus de contamination du lac, que cet élément s'est arrêté?
Vacarme, c'est une série de reportages en 5 épisodes disponibles le dimanche en début d'après-midi sur le Play RTS et sur toutes les plateformes de téléchargement.
On attend vos réactions à l'adresse vacarme@rts.ch ou sur notre boîte vocale 058 134 134 0.